calmez-toi tous, vous êtes un salaud.
Ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Je disais tous les lundis, mais tu as raison, Alex, c'est pas tous les lundis. On a...
C'était hors antenne, il fallait pas le dire.
Oui, bon, mais c'est vrai, on ne cache rien. On a été absent pendant deux lundis de suite. Mais ce soir, on va se rattraper. On vous promet une très belle émission avec ce soir à mes côtés, bien sûr. Et voilà. Bon, alors visiblement, son club n'aime pas les semaines où on joue la prolongation, n'est pas diffusé, puisque l'OM a connu ce week-end sa troisième défaite consécutive, la deuxième à domicile. Mais on remercie quand même d'être là, on le remercie, Blaise van der Linden. Salut Blaise.
Salut Samuel, salut à tous. Et oui, mais l'important c'est que Marseille se concentre sur la Ligue des Champions.
Évidemment, évidemment, et on en parlera largement. Dans cette émission.
On a presque envie de dire notre fer de lance.
Oh, pas mal.
Bien vu. À mes côtés également, Mr. Music. Il est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize et il va ce soir encore, j'en suis sûr, nous apprendre plein de choses dans le domaine du business, du football, le marketing et tout ça. On est ravis de te retrouver, Alex, monsieur Alex de Mayeter.
Comment vas-tu? D'être de retour et très heureux. Il était temps à la deux semaines de fête.
Ça y est.
On reprend depuis.
Allez, hop, hein. Ça y est.
Et
ouais.
On se lâche.
On a la Coupe d'Europe, on est à un mois du mondial. Oh, hé, hey, faut y aller. Et ce soir, on a la chance d'accueillir, c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir un nouveau chroniqueur. Il a sa musique aussi. On va la laisser. Son club de cœur est en tête du championnat, invaincu cette saison. C'est le SSC Napoli. Et donc on est ravis de l'accueillir dans On joue la prolongation. Vincent Mingarelli. Salut Vincent.
Merci, je suis content d'entendre les chants du Stadio San Paolo. Merci à vous de m'accueillir et bonne émission, j'espère.
Eh ben écoute, il n'y a pas de raison, on va passer une bonne émission, j'en suis sûr. Au programme ce soir, la Pro League bien sûr, et on fera un retour sur ce week-end enflammé. Et on parlera aussi bien sûr de la Coupe d'Europe qui arrive ce week-end. Et on vous parlera un petit peu de tout ce qui s'est passé dans l'actualité du football européen ce week-end. Ce qu'il faut retenir en vue de ces matchs qui ont lieu mardi, mercredi et jeudi pour les plus petites Coupes d'Europe. Et on va aussi parler des Belges de l'étranger. Il y a eu quelques beaux pétards qui ont été envoyés en outre-Manche par trois Belges en Première Ligue. Mais on verra ça après. C'est le coup d'envoi, et on commence par la Jupiter, par la Pro League, la Jupiler Pro League. Alors ce week-end, le calendrier nous offrait trois chocs, le classique bien sûr entre le Standard et Anderlecht, le choc au sommet entre les deux premiers au classement, Genk qui se déplaçait à l'Antwerp, et enfin un match qui opposait les deux premiers du classement du championnat 2022, l'Union Saint-Gilloise recevait le champion en titre, le FC Bruges, et je vous propose qu'on commence par le match selon moi le plus passionnant du week-end, l'Union face au club de Bruges. Scénario du match assez dingue, puisque le club de Bruges menait 0-2 après 16 minutes de jeu, a évolué à 11 contre 10 suite à l'expulsion d'Adingra qui avait provoqué le pénalty, expulsion à la 15e minute environ, donc ils ont joué 75 minutes à 10 contre 11. Et s'il y a bien une équipe qui était capable peut-être de réussir l'exploit de retourner la situation, c'était bien l'Union. Les Bruxellois reviennent rapidement, 32e minute, but de Burgess. Et puis au courage, à l'envie, ils vont égaliser à 10 minutes de la fin par Newcop. Score final 2-2. Alors selon que vous soyez Blau & Zwart ou jaune et bleu, vous analyserez très certainement le match différemment. Mais je vais me tourner tout de suite vers celui qui connaît sans doute... qui connaît très bien les deux clubs. Alex, toi qui connais les deux clubs, comment tu analyses ce match? Comment est-ce qu'on... Parce qu'on peut dire clairement que les Brugeois ont perdu deux points.
Très clairement.
Elles doivent pas être très nombreuses, les équipes qui ont remonté deux buts à Bruges en infériorité numérique. Donc c'est un vrai exploit de l'Union Saint-Gilloise. Mais quand même, comment on peut expliquer ce passage à vide, on va dire?
Il y a deux manières de l'expliquer. Il y a déjà, du côté brugeois, il y a la suffisance, il y avait cette arrogance, il y avait cette envie de ne pas jouer, en fait. Une fois que tu mènes 0-2, que tu es à 11 contre 10, c'est un scandale de ne pas gagner le match. Et certainement face à un concurrent direct, face à un concurrent que tu as affronté 4 fois lors de la dernière année, et tu es prévenu que l'Union, à 10 contre 11, ils peuvent revenir. Ils l'ont fait face à Serein, ils l'ont fait maintes fois la saison dernière face au Cercle de Bruges, et même cette saison, étant menés, ils sont revenus au score. Oui, je pense à Malmö, à Braga effectivement aussi, mais même en championnat. Ouais. Donc c'est... En plus avec Kasper Nielsen qui sait très bien comment ça fonctionne, c'est incompréhensible que Bruges s'est arrêté de jouer. Après, tout le mérite revient à l'Union et plus particulièrement, je pense à Carole Gerhardt, de driver. Il a fait quand même un remplacement à 0-2 et à 10. Il a quand même fait rentrer Loïc Lapoussin pour jouer à 4 derrière en 4-3-2. Pour garder une certaine base pas... défensive, tout en gardant l'animation offensive.
Il ne voulait pas hypothéquer la suite du match en se disant...
Non, mais c'était un changement super payant à mon sens. Ouais, ouais. Et c'est ça qui permet, bon, certes la tête de Burgess, certes l'action, etc. Mais l'Union était clairement au-dessus du club pendant 70 minutes. Et ça, c'est... Oui. Et selon on regarde, c'est scandaleux brugeois, c'est magnifique étant unioniste. Mais... Coup de chapeau énorme à Carole Gerhardt, c'est parce qu'il a gardé justement, il a fait ce remplacement, mais d'un point de vue tactique, d'un point de vue animation offensive, d'un point de vue verticalité, d'un point de vue abnégation, tout y est. C'est formidable ce qu'il réussit à faire.
Moi, je trouve que c'est hyper important tu l'as mentionné, c'est hyper important de souligner la mentalité de cette équipe parce que l'année dernière aussi, comme tu l'as dit, ils reviennent dans des matchs où on est sûr qu'ils les ont perdus. Là, à 2-0 avec un penalty à la 15e minute, enfin, contre Bruges, normalement, c'est juste impossible de remonter. Ils le font et en plus, on connaît beaucoup d'entraîneurs, que ce soit en Belgique ou bien en Europe, qui à 10 vont bétonner derrière et essayer de ne pas en prendre 5-6. Il fait rentrer la poussin, tu le dis, il marque deux buts. Cette équipe, elle est pleine de surprises. Ouais. Et on ne sait jamais ce qu'elle va sortir de son sac.
Oui, il faut préciser, la poussin est un ailier gauche. Il a quand même fait sortir Sykes, qui est un défenseur central. Donc, bah après, Loïc Lapoussin, un joueur arrière-gauche, très offensif, on va dire. Mais coup de chapeau énorme à Carole Gerhardt, c'est le mérite, c'est ses points, mais aussi l'équipe évidemment qui a suivi les envies du coach et ce qu'il leur disait, etc. Mais il faut quand même se réadapter, en plus avec la frustration d'un pénalty qui n'en est pas un,
oui.
Et la carte rouge.
Et la carte rouge,
Le carton rouge.
La carte rouge, tu l'as, si tu siffles la faute, il y a rouge, automatiquement. Mais il y a, à mon sens, il n'y a pas pénalty.
Ouais. Non, je pense pas.
Ouais, il y a eu quelques actions comme ça, un peu litigieuses en Europe, pas uniquement à l'Union. Et c'est vrai qu'il y a des pénaltys. Il y en a un qui a été sifflé pour un joueur qui sortait de la surface. C'est toujours frustrant. C'était... Peu importe. Mais
la question quand même de la carte rouge automatique quand il y a pénalty, pour moi, elle n'est pas si évidente que ça. Et d'ailleurs, c'est des débats qu'on a souvent quand il y a un pénalty qui est sifflé et qu'on voit que l'arbitre sort le rouge, c'est ce qu'on appelle la fameuse double peine. Je suis moins quand même tenté de dire que c'est une évidence. Et peut-être que là, en l'occurrence, le carton jaune aurait été plus adéquat parce que c'est vrai que quand tu donnes un penalty et que tu sors le rouge avec, bah, tu tues vraiment le match.
Double peine.
Alors que ça... Sauf évidemment quand c'est une faute gravissime. Quoi.
Alors c'est intéressant.
Il y a eu tout un temps où, l'année passée d'ailleurs, on plaidait pour ne pas avoir cette double peine. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle est de retour. Et ce n'est pas carte rouge parce qu'il y a penalty, c'est carte rouge parce que c'est le dernier
homme. C'est le dernier homme, oui.
Donc c'est pour ça que c'était automatique à mon sens.
Oui, c'est ça. Après, j'ai pas exactement l'action en tête, mais c'est vrai que parfois, on voit des joueurs, des défenseurs argumenter avec l'arbitre en disant « Mais j'étais en train de revenir, je l'aurais coupé. »
Ils argumentent pour tout avec l'arbitre.
C'est vrai.
là, il l'empêche quand même bien de se retourner. Oui,
oui, oui.
Il fait une belle prise de catch.
mais c'est vrai que les arbitres doivent appliquer le règlement à la lettre et sans les aménager. Je lisais en championnat de France le match qui a opposé Nantes
à Rennes
et où un Nantais a dit, l'arbitre m'a dit, je ne peux pas siffler ça à la 94e minute. C'est un scandale. S'il y a faute, il y a faute. Que ce soit à la première ou à la 94e. Et tant pis s'il y a une des deux équipes qui est très déçue. Mais c'est vrai que là, c'était un penalty qui était, selon toi, Alex, toi, il n'y avait pas...
C'est pas selon moi. Pour moi, si tu siffles faute, c'est en dehors de la surface. Parce que l'action commence en dehors de la surface.
Ouais.
Je pense que c'est très clair. Après, chacun peut voir les images et forger son opinion. Mais pour moi, c'est en dehors.
Et moi, j'ai l'impression que la plaisanterie, si je puis me permettre d'employer ce terme, ne s'arrête jamais, en fait, avec l'Union. Parce qu'ils nous ont fait une saison exceptionnelle en deuxième division. Ils ont fait une saison encore plus exceptionnelle l'année passée. Et là, on se disait, je pense qu'on est tous d'accord, on pensait que ça allait être la troisième. C'est comme la troisième, c'est celle de Mourinho.
La troisième saison de Mourinho.
Voilà, la troisième, celle qui passe pas. Ils sont quatrième, bien installés au classement. Ils font un parcours européen remarquable aussi. Et ils ont su en plus se renouveler. Puisqu'ils ont perdu quand même leur entraîneur, sans doute des cadres, dont Nielsen, dont on parlait, qui était sans doute un des meilleurs joueurs l'an passé, et un renouvellement, Undav, Mitoma, c'est vrai.
Pour revenir un peu sur Nielsen, vu ses performances en Champions League, ils ont perdu un gros joueur quand même.
D'ailleurs, il a connu la sélection, je crois, danoise, quand il était à l'Union. Même s'il joue pas beaucoup, il risque d'être quand même il va être dans le groupe danois pour la Coupe du Monde. Une équipe qui sera à surveiller, comme on dit, comme le lait sur le feu.
Après, il y a 26 joueurs aussi dans la sélection. Ouais. Donc, c'est une sélection un peu plus large. Mais pour revenir sur ce que tu disais, oui, certes, moi je vais rester sur mes pronostics et sur mon avis de l'Antwerp Genk. Mais il y a la Coupe du Monde et je pense que les équipes qui ne performaient pas avant vont performer après et inversement. À voir, sauf les très grosses écuries, mais à voir.
Ouais. C'est une deuxième saison qui va commencer. Ouais. Là, on a fait comme en Amérique du Sud où ils font le tournoi d'ouverture et puis la saison finale. C'est la même chose. Les mecs vont se séparer pendant un mois. Ils vont revenir soit gonflés à bloc, soit complètement morts de la Coupe du Monde. Donc ça va redistribuer complètement les cartes. Et il y a des gros clubs qui vont avoir beaucoup de joueurs qui vont partir. Et il y a des petits clubs qui vont pouvoir travailler tranquillement pendant plusieurs semaines sans avoir, 5-6 joueurs phares qui seront absents.
Ouais, c'est vrai que ça va être aussi une...
Est-ce qu'on compte Anderlecht dans les petits clubs ou pas?
On peut, Henri n'est pas là.
Je pose le pavé dans la mare, je le pose.
Écoute, si vous avez fini sur Union Bruges, est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter? Le tournant du match, c'est peut-être c'est Jougla qui part seul, qui l'a.
Pour moi, c'est plus le remplacement.
Parce que pour le plus grand supporter de Bruges de cette maison, qui doit nous écouter, lui, il m'a dit que quand il voit Jougla louper son contrôle et qu'ils ne réussissent pas à mettre le but, il m'a dit. Oui.
Bonne sortie de Maurice aussi. Ouais, mais pour moi, le tournant, c'est le remplacement. Et c'est surtout à ce moment-là que l'Union va commencer à y croire aussi. Parce que oui, ok, certes, il y a la suffisance d'un côté, mais de l'autre côté, il faut quand même encore tout faire pour.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est ça. C'est... Peut-être Blaise.
Je suis d'accord avec toi. Ouais.
Bon, on va, après le match le plus agréable, on va passer au plus désagréable, au classique, entre le Standard et Anderlecht. Je ne saurais pas vous dire, en fait, si le score final est de 3-1 ou s'il va être modifié donné forfait.
Ce sera
5-0.
C'est déjà arrivé plusieurs fois.
Ouais. C'est vrai que le match avait pourtant bien commencé pour Anderlecht. Yari Burskarn avait marqué dès la première minute. Et d'ailleurs, Anderlecht avait réussi, je pense, un bon premier quart d'heure au moins. Et puis ensuite, ça s'est déréglé. Et on a vu qu'après le premier but, ça commençait déjà à patiner un peu. Après le deuxième but, sont arrivés les incidents. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Toute la presse est unanime. Enfin, tout le monde rappelait que ça avait déjà été...
C'est en 2019.
2019, c'est ça. Les supporters d'Anderlecht avaient tout fait aussi pour arrêter le match en pourrissant l'ambiance du stade, en jetant les fumigènes, etc. etc. Ils ont refait le même coup, on va dire. Je lisais que Ronny Delia disait qu'il ne trouvait pas ça très sportif et que c'était contre l'esprit du jeu. Il a raison, mais...
Ce n'est pas sportif, c'est contre l'esprit du jeu et c'est de la récidive.
Ouais.
Ah, ils parce vont prendre que cher, Anderlecht.
Ils ont déjà 50 000 euros minimum d'amende, ce qui n'est pas grand-chose, mais c'est de la récidive. Ils l'ont déjà fait au Standard, ils l'ont fait à Beveren dans le temps, Et systématiquement, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ses supporters se croient au-dessus de toutes les lois, au-dessus des lois du foot, au-dessus des lois même de la société, et ils arrêtent un match. Alors, il faut tout doucement se poser des questions. Est-ce que la sanction du 5-0 est suffisante? Parce que perd 3-1, 4-0, 4-1, 5-0, 5-1, finalement, on ne va pas changer grand-chose. Oui, l'amende, ils s'en foutent, c'est pas eux qui la payent. Mais est-ce que ça va continuer dans cette optique-là? Et surtout, on le savait déjà depuis dimanche dernier, il y avait toute une partie de la tribune à Anderlecht, et j'y étais, qui était tout simplement habillée de noir, avec des cagoules, prêt à monter sur le terrain si ça se passait mal.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme conséquence plus lourde pour éviter que ça se reproduise?
Des retraits de points, peut-être.
Bah, c'est ce que j'allais dire. On a l'exemple l'année dernière du match Marseille-Nice où ça avait débordé. Au final, Nice, il rate l'Europa League pour, le point qui leur a été retiré. Donc, à un moment, il faut s'attaquer aux sportifs. Il faut arrêter de taper dans le portefeuille parce que ça ne sert à rien.
Oui, comme vous s'attaquer aux individus surtout et à leur portefeuille. Parce que finalement, 50 000 euros que le club paye, bon, sur un budget de 40, 50 millions. Ils se disent qu'est-ce que c'est. Par contre, si individuellement, tu peux être sanctionné pour tes actes, on parle de peine de prison, on parle d'amende aussi. Et pour revenir sur ce que tu disais, surtout au Standard, et le Standard l'a mis dans un communiqué, il y a tous les supporters qui ont tweeté en dessous, tu mets un filet autour de la tribune adverse, tu n'auras pas ça. Après, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand je lis ça. Mais c'est une des solutions. D'interdire, de fermer une tribune, Blaise, il connaît ça aussi, de les mettre en cage, mais alors il y a des plaintes de l'autre côté, comme à Saint-Tron, de mettre des amendes individuelles, si on reconnaît les supporters, mais c'est des procédures qui durent très longtemps, et quand j'entends Laurine Parès ce midi qui dit 25 ans d'interdiction de stade, c'est plus des paroles en l'air que des faits.
Oui.
C'est pour eux, je pense. Enfin, c'était cet été, ils avaient fait une espèce de vidéo où ils arrivaient à localiser les individus. Là, c'était plus pour les. Enfin, c'était sur les insultes racistes. Mais ça doit être faisable de localiser des gens dans un stade.
Oui, le concept de Bruges, en fait, ils mettent un QR code sur le siège devant ou à côté, sur tous les sièges, sur l'arrière de tous les sièges plutôt, il y a un QR code. La personne peut le scanner et envoyer sa plainte. Après, c'est un petit peu de la délation.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu
pour un oui ou pour un non. Tiens, j'aime pas celui devant moi. Il m'embête depuis là tout à l'heure parce qu'il est debout. Je vais dire qu'il a crié une injure raciste et il va se faire dégager. Donc oui, enfin, c'est un système comme un autre. Mais
ça fait un peu dystopie quoi.
Ouais, on n'est pas.
Je pense qu'effectivement dans certains stades on pourrait mieux encadrer, mettre des filets par rapport au terrain, et même en Allemagne c'est ce qui se fait aussi. Je pense à Gladbach par exemple, il y a un grand filet, il est pas opaque du tout, donc ça nous permet quand même encore de voir le match, et je pense que c'est une solution.
Dans plein de stades il y a des filets aujourd'hui, et au final c'est ce qui marche le mieux. Bon, il y a encore des trucs qui passent, mais c'est ce qui marche le mieux.
Ouais, ça, au moins physiquement, ça arrête les projectiles.
Mais ce qui est problématique, c'est que ce n'est pas la première fois et qu'on est censé avoir des fouilles. Et est-ce qu'elles se déroulent 100% bien ? On connaît tous la réponse. Mais après, on a envie de dire, on sait où aller les chercher.
Comme à Marseille, tu veux dire ?
Pardon ?
Tu veux dire qu'il y a une connivence avec les stadiers comme à Marseille ?
Non, je dis qu'il y a des personnes qui se mettent des fumigènes dans tous leurs orifices possibles et imaginables, et que là, il n'y a pas accès pour le steward.
Ah oui,
et
effectivement.
C'est peut-être quelque chose qu'il faut trouver à contrer.
Vous vous rendez compte où on en est ?
Non, là, c'est quand même difficile de.
Non, mais à un moment.
C'est pas ce qu'on peut faire.
Mais c'est très simple. Toutes ces personnes, c'est en combibus. Elles sont en combibus, donc si tu nommes la personne qui est responsable du bus, responsable de la finalité, ça peut déjà en dissuader plus d'un, et ça peut contrer d'une manière ou d'une autre ce fléau. C'est même plus un phénomène, c'est un fléau, et c'est systématiquement les mêmes équipes.
En plus, c'est vraiment dommage parce que le spectacle qui avait été fourni par les supporters du Standard avant ça, c'était juste magnifique, quoi. Et ils viennent ruiner en 70 minutes un travail de plusieurs semaines. Enfin, c'est vraiment honteux.
Ouais, je pense que ça leur faisait particulièrement plaisir aussi de le faire. On parle un petit peu du match quand même, même si parce qu'on a quand même vu des choses d'un côté comme de l'autre. Le Standard a très bien joué, porté par notamment un très bon Raskin. Et puis retrouve quelques joueurs qui n'étaient pas à leur niveau, loin de là même, la saison passée, et ça remonte un petit peu, et la mayonnaise a l'air de prendre avec Rony Delia.
C'est une très bonne mayonnaise, j'ai l'impression. On met même des copeaux de truffes dedans. Et il ne faut pas oublier, Ils battent Bruges 3-0. Ils battent l'Antwerp 3-0, 3-1, je pense. Ils en mettent 3 à Anderlecht aussi. Waouh.
Ouais.
C'est une sacrée performance.
C'est effectivement pas... Ce ne sont pas les résultats qu'on attendait du Standard après avoir vu les défaites un petit peu piteuses, mais contre les gros, ils réussissent à...
Au début de la saison, ouais. Avec la saison qu'ils font la saison de l'année dernière et puis toute cette instabilité, on avait tout... Enfin, en tout cas, moi, j'avais un petit peu peur pour eux.
Ouais. Et là, chapeau, ils sont cinquième et c'est en revanche pour...
Et là, c'est la preuve, la trêve internationale qu'on a eue a fait énormément de bien au Standard parce que leur début de saison était mitigé. Ils ont réussi à tous se mettre ensemble. Se former un groupe, apprendre à se connaître, et depuis lors, ils font des prestations chapeau bas.
Ouais. Ouais, ils sont de retour, au contraire d'Anderlecht, dont on a appris malheureusement le limogeage de Felice Mazou dans la journée. Il avait sans doute une position qui était plus tellement tenable.
Ouais, c'était inévitable.
Il avait perdu le crédit, je ne sais pas s'il en a eu beaucoup auprès des supporters au début. Ouais,
parce que je pense qu'il avait, Felice avait beaucoup de crédit auprès des supporters. Et Felice est quelqu'un de fort aimé, mais après les supporters n'en ont pas nécessairement contre lui parce que Felice et son staff devaient faire avec ce qu'ils avaient comme matériel. Je pense qu'il y a eu d'autres soucis en interne dans le recrutement par exemple. Il y a des joueurs clés de l'année passée qui n'ont pas été remplacés. Et finalement, bon, le classement est peut-être en deçà, est sûrement en deçà des espérances, mais il est également un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre de ce noyau, je pense. Et donc, ils payent les pots cassés, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de supporters qui en voulaient à Felice, qui étaient fâchés sur Felice. Il y a eu pire à Anderlecht les années précédentes, où est-ce qu'on s'en prenait vraiment à l'entraîneur, et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Ouais, et on peut s'interroger sur le deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'il a été il est limogé après seulement 14 journées de championnat, là où Vincent Compagnie a eu plus de temps pour installer son process.
Process.
Il n'a jamais été 12e non plus à sa décharge.
C'est vrai. C'est vrai.
Burnley est quand même premier de 2e division anglaise. Donc
ouais.
Après, il faut savoir aussi, Vincent Compagnie, c'est un joueur qui a joué 20 ans au top niveau, et certainement en Angleterre. Donc son level, ses attentes, sa manière de travailler et sa logistique pour travailler, c'est autre chose que ce qu'il y avait à Nerpid.
Oui.
Et la volonté de partir était là aussi. Donc, des joueurs, d'après mon sentiment, les joueurs qui ont connu Compagnie où la vis était très serrée, où est-ce qu'il y avait quand même une énorme rigueur dans les vestiaires et dans la façon de faire, dans la façon de gérer le club, avec Felice, pouvoir travailler avec lui, c'est déjà une meilleure ambiance. Une fois qu'il siffle à la fin de la récré, c'est clair, et c'est le coach, et il a de l'autorité sur ses joueurs, mais c'est beaucoup plus cool, c'est... dans tout, quand la corde était beaucoup plus serrée avant. Donc, je pense que psychologiquement, pour les jeunes joueurs, ça devait jouer aussi.
Oui, il y a peut-être aussi des joueurs qui, de par leur caractère, jeunes ou pas, ont besoin d'être vraiment fliqués, j'allais dire encadrés. Et si on leur laisse un peu trop de liberté, eh bien, ça déraille. Et c'est malheureux. Ce qui est malheureux surtout pour Mazou, c'est que c'est sa deuxième expérience dans un très grand club belge et elle se solde par le même résultat, c'est-à-dire un limogeage assez tôt dans la saison. C'est décevant. Pourtant, c'est un super entraîneur. Est-ce que finalement il touche un plafond de verre au-delà duquel il pourra pas aller ou c'est circonstanciel et autant est-ce que son management fonctionne avec les grosses équipes ou est-ce qu'il est limité simplement aux petites équipes? Je pose la question. Hein,
Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est aussi une conjoncture dans un club. Mmh. Après chaque moment, il se passe quelque chose. Je repense à l'époque Bruges, quand Lekken s'est arrivé, il y a eu des Garrido, il y a eu des Preud'homme, etc. Il y a eu Preud'homme après Koster. Donc chaque entraîneur a été participatif. Il y en a un qui était très tactique, Ferreira par exemple. Il y en a un qui était très, très à cheval sur toutes les règles, la rigueur de Dom par exemple. Donc il y a cette conjoncture et chaque joueur s'y adapte un peu. J'ai envie de comparer, en fait, quand on était à l'école, tu avais un prof une certaine heure qui était super strict. C'était sûr que l'heure d'après, c'était la foire.
Ouais.
C'est un petit peu la même chose avec des joueurs de foot, pour ne pas les infantiliser. Mais pour dire, voilà, tu passes quand même dans cette conjoncture de mentalité différente. Et donc, il y a une adaptation qui doit se faire. Mais si tu veux être participatif et si tu veux donner les responsabilités à certains joueurs, et j'ai connu ça par le passé aussi avec d'autres entraîneurs, il faut que ces joueurs soient réceptifs à ça et qu'ils aient eux-mêmes cette rigueur de travail et cette éthique de pouvoir suivre les règles implicites qu'on ne leur dicte pas toutes les 5 minutes.
Oui, c'est ça. Il faut rester professionnel. C'est le travail invisible, c'est savoir
suivre la cadence et se dire soi-même, je vais faire ce que j'ai à faire pour mon entraînement. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas connu ça, forcément, qui étaient chez les jeunes avant et qui n'ont pas été éduqués, entre guillemets, avec cette rigueur de travail. Mais alors, c'est peut-être à des joueurs plus âgés, avec plus expérimentés, outre Rafaïlov, quand ils ne se disputent pas, de reprendre ce rôle.
Ah, il a recommencé, Rafaïlov, à faire ces espèces de chutes aux gens et tout. Enfin,
oui, ouais. pour les avoir vus à l'œuvre l'année passée, c'est pas Rafaïlov qui commence ce genre de guéguerre, crois-moi.
Oui, là, c'était une prise de bec avec Hoot, qui visiblement, Hoot, lui, trouvait qu'il mettait trop de temps à sortir. Voilà, c'est les petites. Quand ça va pas et quand on est nerveux pour pas grand chose, ouais. Avant de refermer la page Jupiler Pro League, on va quand même dire un mot de ce Antwerp Genk. C'était les deux premiers au classement qui s'affrontaient et Genk l'a emporté donc sur le terrain de l'Antwerp 1-3. C'est la 7e victoire consécutive de Genk. On rappelle qu'ils avaient démarré avec une défaite. Puis depuis, ils n'ont pas perdu. Et oui, Alex, tu peux nous rappeler un petit peu l'analyse qui avait été la tienne dès la première journée.
Non, c'est que Genk va de toute façon être un candidat au titre. Ouais. Et je pense qu'ils le prouvent chaque semaine. Après, c'est leur avantage, mais il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il y avait des bases à reconstruire. Il y a l'expérience des joueurs. Ils ont un an de plus aussi. Et ils ont Wouter Franken qui sait comment motiver ses troupes et qui sait justement comment driver tous ces joueurs. Il ne faut pas oublier sur le terrain. Je pense que 11, la semaine dernière, en tous les cas, 11, les 11 joueurs sur le terrain, c'est des joueurs qui étaient là l'année passée.
Oui, c'est vrai.
Qui étaient titulaires majoritairement l'année passée. Donc, il a vraiment réussi à créer une équipe. Et on le voyait à la première journée. Bruges gagne sur un malentendu, j'ai envie de dire, en toute fin de match. Mais Genk a fait une super prestation et il le prouve en fait chaque semaine. Donc pour moi, c'est le candidat au titre.
Le candidat au titre, ben ça tombe bien, il est en tête. Je rappelle le classement. Enfin, je vous le donne, le classement. Premier donc Genk avec 37 points, soit 4 d'avance sur l'Antwerp. Le club de Bruges est troisième avec 29 points, comme l'Union Saint-Gilloise. Cinquième, le Standard avec 25. La Gantoise 23. Westerlo 22, 7e. Et OHL 8e. Avec 21 points, Anderlecht est 12e avec 16 points en attendant le résultat des commissions de discipline. On verra ce qu'il en ressort. Un week-end qui a été marqué par des limogeages, puisqu'on l'a dit, Mazou est parti. À Charleroi aussi, Styles a donc pris la porte après une défaite 4-1. On sentait aussi que du côté de Charleroi, ça commençait à virer, à tourner à l'autre boudin. C'est pas mal comme expression, ça. Et donc, ben voilà, il y a eu pas mal de changements au cours de cette journée.
À Eupen aussi.
À Eupen aussi.
Bergstork.
C'est vrai.
Sans oublier Courtrai, le cercle auparavant aussi. Mais
il faut
pas oublier qu'on ait une saison avec 3 descendants.
Ouais.
Et comme tu le disais dans le classement, entre le dernier qui est 18e, qui a 11 points, je pense, et Anderlecht qui est 12e avec 16, il n'y a que 5 points.
Ouais, c'est tout est possible. Tout est possible. Et voilà, on aura la semaine prochaine la suite de ce feuilleton passionnant qu'est la Jupiler Pro League. Il est 20h30 dans quelques secondes et je pense que c'est l'heure d'avoir une minute Sportimize. Sportimize, dont Alex, tu es le fondateur, une agence de marketing sportif qui donne tout plein d'informations passionnantes sur le business du football. De quoi donc vas-tu nous parler ce soir ?
J'attends le jingle.
Ah, je l'ai... Voilà, c'est le signal.
Ah bon.
Excuse-moi, je l'ai.
On fera avec.
Il sera sur la palette dès la semaine prochaine.
Non, je rigolais. Mais je vais vous parler de Boeren voor Boeren. Et c'était justement sur les réseaux Sportimize cette semaine. Est-ce que quelqu'un sait de quoi ça parle ou de quel club ça parle?
Alors là.
Normalement, c'est facile parce qu'il y a déjà une indication.
Moi, je sais.
Vas-y.
Borussia Dortmund.
Non,
BVB.
Non, Bourne, Vourbourne. Ouais, ça aurait pu, mais ça n'est pas le cas.
C'est pas ça. Non. Eh ben non, je ne sais pas. Alors.
Ça parle du club de Bruges. Ah. Et leur marketing, on sait très bien, ils sont très 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 forts en Belgique. Et Bourne, Vourbourne, c'est en néerlandais fatalement. Et c'est agriculteur pour agriculteur. On sait que Bruges se surnomme les Bourne. On a encore entendu Anderlecht intensément la semaine dernière par les supporters locaux. Et en fait, c'est une action qui vise à aider les agriculteurs locaux, qui fatalement, ils ont leurs fruits, leurs légumes. Et en fait, Bruges est un peu une sorte de supply chain qui va les connecter, les supporters, avec les agriculteurs locaux en créant des box. On connaît tous HelloFresh, pour ne pas les citer. Et Bruges crée en fait des box avec des fruits et légumes produits localement, bio, pour ses supporters qui peuvent les acheter au club. Et le club reverse alors ensuite l'argent auprès des agriculteurs avec qui ils travaillent. Et le concept étant, donc il y a Bruges qui joue contre Porto cette semaine.
Ouais.
Les supporters qui ont commandé jusqu'à ce soir minuit, ils peuvent retirer leur box après le match dans une sorte de cagette spéciale à côté du stade.
D'accord.
Avec leur référence, leur QR code. Et alors, fatalement, ils rentrent chez eux avec leur box comme s'ils avaient fait des courses en allant au stade. Donc, je trouvais ça très original.
Oui, c'est vrai que ça permet de...
Et donc, c'est bien parce que finalement, ça aide les agriculteurs locaux et donc les circuits courts
absolument,
dans la province. Ça aide les supporters et ça leur contribue à une meilleure alimentation, pour certains en tous les cas.
Après, les 8 bières qui sont envoyées au stade, il faut bien manger. Hein, alors.
Pourquoi pas ? Mais ils ne doivent pas manger le soir même après le match, non ?
C'est vrai.
Il y a cet aspect social, il y a cet aspect économique qui est intéressant aussi pour tout le monde. Et surtout, Bruges récupère des data, ils peuvent toucher un public qui ne touche pas forcément non plus avec cette action. Donc je voulais mettre ça en valeur cette semaine, au lieu de ramener un chiffre, on en aura assez pendant la Coupe du Monde. Donc,
c'est ça.
J'ai trouvé cette action très sympa comme activation.
Et absolument. Je trouve que c'est original et je pense qu'il y a de plus en plus de terrain à aller explorer comme cela dans les clubs de foot qui vont devoir qui doivent se renouveler et essayer de générer d'autres profits au travers d'autres activités.
Après, il y a certains clubs, les navets sont sur le terrain. Mais...
Wow. Et voilà, ça y est, c'est dit. C'est dit, c'est fait. Merci pour cette minute. Tu auras le bon jingle dès lundi prochain.
C'est noté.
C'est noté. Maintenant, je me suis engagé. On passe maintenant à la Coupe d'Europe. Ah, la Coupe d'Europe. Et on va commencer, puisqu'on était sur le club de Bruges, on va commencer par le groupe B, donc celui du club de Bruges. On sait que le club est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Et s'il ne perd pas mercredi, il sera même assuré de le terminer premier. Au classement actuellement, Bruges compte 10 points. En deuxième, suit le FC Porto avec 6, l'Atlético 4 et le Bayer Leverkusen 3. Quand on lit le classement, on avait dit que c'était un groupe moins prestigieux, en tout cas, que les groupes qu'ils avaient pu toucher les années précédentes quand ils tombaient sur le Real Madrid, le PSG. Mais c'est quand même des sacrés beaux noms qui sont tous les trois derrière le FC Bruges. Quel bel exploit réalisé par les Brugeois depuis le début de la saison européenne.
C'est magnifique. Rien que financièrement, déjà, c'est entre 10 et 15 millions en plus pour le club. Et sportivement, ça va permettre peut-être d'avoir une très belle affiche en huitième de finale. Maintenant, à voir, comme Marseille, est-ce que tu préfères terminer premier du groupe et tomber contre un deuxième ou inversement ? Ça, c'est encore...
C'est des poules. Enfin, c'est des tirages au sort. Hein.
C'est tirage au sort, mais c'est d'office premier contre deuxième.
Ouais. Premier contre deuxième.
La question se pose pour Naples aussi, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Noter quand même, puisqu'on parle de ce groupe, un des grands enjeux, c'est l'Atlético, qui est quand même deux fois finaliste au cours des 10 dernières années, et qui là est en danger de mort, c'est-à-dire qu'ils sont en troisième. Et il pourrait ne pas passer en huitième. Donc il y a ce gros enjeu dans ce groupe B qui est de savoir qui de l'Atlético ou de Porto ira en huitième. Et là, effectivement, Bruges, qui a battu l'Atlético, pourrait peut-être leur rendre un petit service en battant Porto.
Ouais.
On l'espère parce qu'on aime bien quand même cette équipe madrilène.
D'office, c'est un gros qui passe à la trappe suite et grâce aux résultats de Bruges.
Oui.
Après, l'Atlético et Porto, ils ont leur sort entre les mains. Ça, c'est quand même l'avantage. Ouais. Mais je pense que Porto a un petit avantage en jouant à domicile contre l'Atlético.
Oui, c'est ça. Dernier match Porto-Atlético et le Bruges finira à Leverkusen. On disait donc que le club de Bruges est qualifié, mais tout est encore possible, même pour Leverkusen qui a 3 points, alors que l'Athletic en a 4 et Porto 6, donc ça va être serré jusqu'au bout. Et on souhaite bien sûr encore plein de beaux résultats. Déjà à commencer par mercredi soir, hein, ne serait-ce qu'un match nul, ça leur permettrait de finir premier.
Est-ce que c'est la bonne place? C'est une autre question. Ouais.
C'est la question de la réception au match retour, quoi. C'est vrai que vous pouvez tomber sur... si vous tombez sur le deuxième du groupe du Bayern, de toute façon, vous avez un gros... vous avez un problème.
Quoi que dis-vous ?
Enfin, vous, non, si vous, en général, si vous êtes une équipe qui tombe sur...
Les équipes belges.
Les équipes belges, voilà. Je vous propose de passer au groupe H, celui du Maccabi Haïfa. Donc, dans ce groupe, le Paris Saint-Germain et Benfica sont en tête avec 8 points. La Juve et le Maccabi Haïfa comptent, eux, 3 points. Demain... le PSG reçoit le Maccabi Haïfa, tandis que Benfica reçoit la Juventus. À noter, c'est une situation un peu particulière, qui est amusante. On s'amuse avec ce qu'on peut. Il se pourrait que les quatre équipes, qui comptent actuellement les mêmes... Elles comptent, il y a deux équipes, deux fois deux équipes
8-8,
qui comptent.
3-3,
voilà, c'est ça, 8-8, 3-3. Les résultats des confrontations directes sont égales des deux côtés, ce qui fait qu'en fait on va descendre au troisième ou quatrième ou cinquième critère qui va être la différence de but générale. Donc ça va être important. Donc par exemple le Maccabi Haïfa, s'il veut se qualifier pour la Ligue Europa, ce qui paraît le plus probable, la troisième place, ils vont devoir faire un petit peu mieux que la Juve sur les deux derniers matchs. Il y a vraiment un duel à distance sur deux matchs, disons, puisque même si le Maccabi Haïfa venait à perdre contre le PSG demain.
Pure hypothèse.
Et que la Juve l'emporterait à Benfica, eh bien, ce serait le Maccabi Haïfa aurait encore la possibilité de se qualifier. C'est déjà très bien qu'ils aient réussi le début de saison qu'ils ont réussi. Ce serait encore mieux s'ils réussissaient à sortir la Juve, par exemple.
Bah, dans ce groupe-là, c'est quand même, la grosse surprise, c'est la situation de la Juve. Et bon, malgré tout l'amour qu'on porte à cette équipe de Haïfa, ils ont complètement grillé leur joker en Israël quand ils ont perdu.
Ouais.
La Juve est là, enfin, quand même 5 points en 2 matchs, sachant qu'ils doivent jouer le Benfica et le PSG, c'est compliqué à rattraper quand même.
Ah ouais, pour moi la Juve au mieux, enfin je les vois même plus jouer la qualif pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.
Bah, faut qu'ils battent le PSG, donc c'est quand même difficile à imaginer quand on voit l'état actuel de cette équipe.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont...
Là, Benfica joue sa qualif demain, ce qui est assez probable. Ça veut dire que la dernière journée va être assez intéressante pour l'Europa League, non pas pour la première place.
Ça devrait être effectivement.
Après, je pense avoir lu qu'il y avait 3000 supporters d'Haïfa à Paris.
Ouais, il y a une. Ça va être assez chaud visiblement parce qu'ils avaient prévu 2000. Enfin, ils avaient droit normalement à 5% de la capacité du stade pour la tribune des supporters visiteurs. Le match a été classé à haut risque, 3 sur 5 en tout cas, pas haut risque, pas très haut risque, mais à haut risque, en raison d'un contentieux entre supporters. Alors il faut savoir que les supporters du CUP, le collectif ultra-parisien, ne s'en cachent pas et soutient ouvertement la Palestine, au travers notamment de drapeaux dans les tribunes, donc... Il va sans doute y avoir un petit peu de tension de ce côté-là. On risque d'avoir pas mal de drapeaux palestiniens, voire pas mal de drapeaux palestiniens qui vont fleurir dans les tribunes. On espère que ça ne dégénérera pas entre les supporters des deux clubs. Et oui, pour revenir sur les supporters, il y a effectivement 1650 supporters seulement qui ont été autorisés. Mais il va y avoir beaucoup de supporters qui seront venus par leurs propres moyens, voire des Parisiens qui supporteraient le Maccabi Haïfa pour l'occasion. Donc, c'est tendu.
Mais c'est ça, justement, dans le stade, entre les vagues visiteurs et domicile, je ne m'attends pas à trop de problèmes, sauf si les supporters ont pris des tickets entre les autres.
C'est
plutôt en dehors du stade que ça pourrait dégénérer, malheureusement.
Et c'est vrai que ça n'est pas théorique, puisque... Et c'était justement à l'occasion d'un match contre un club israélien. C'était en 2006, peut-être 2009, je ne sais plus. En tout cas, le Paris Saint-Germain recevait l'Hapoël Tel Aviv. Il y avait eu des grosses bagarres en sortie de stade, un supporter juif de l'Atleti, français de l'Atleti, de l'APOEL Tel Aviv s'était fait pourchasser par trois gars de la tribune Boulogne de l'époque. Il avait trouvé refuge derrière un policier qui n'avait pas pu faire autrement que d'ouvrir le feu sur un des attaquants, assaillants, et qu'il avait tué. Donc il y a eu un mort autour du Parc des Princes à l'occasion d'un match entre un club israélien et le PSG. On espère que ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme demain. Il y a un gros dispositif policier qui a été mis en place.
Au vu de la ferveur au stade de Haïfa depuis le début de la Ligue des Champions, on peut comprendre aussi que ces supporters sont des vrais supporters.
Ah ouais, ouais, c'était... C'est impressionnant l'ambiance qu'ils ont mis dans le stade. Et quand tu dis 3000, je pense qu'il y en aura peut-être même plus. Hein.
Moi, plus, c'est sur Twitter, j'ai vu passer ça ce matin.
Moi, j'avais pas mal de gens en Israël déjà qui cherchaient. J'ai été contacté par des gens qui me disaient « Est-ce que tu sais comment on peut trouver des billets ?» On peut trouver des billets. Ouais. Et voilà, il va y avoir beaucoup de monde. Et est-ce que tu redoutes c'est-à-dire que les gens qui auront acheté... Il risque d'y avoir aussi pas mal de supporters donc français, parisiens, qui auront acheté leur ticket et qui seront peut-être pour le Maccabi Haïfa. C'était le cas souvent quand on jouait l'OM.
Après, c'est...
Quand l'OM marquait, à l'époque, quand l'OM marquait un but, et on était dans la tribune, on se disait... Tout le monde était un peu renfrogné comme ça. Et puis, il y avait 15 mecs qui se levaient. Ouais. On les regardait comme ça en disant... Oh,
c'est pas ce que je redoute. C'est absolument pas le football qu'on veut. Quand je vais en Allemagne, à Mönchengladbach ou même un autre club, ou à Leverkusen, devant toi, tu as des supporters. Ils ont un maillot de Bochum était en D2. Ils ont un maillot de l'équipe adverse. Il y en a un qui est là avec son maillot de Dortmund, l'autre du Bayern. Et tout le monde sait se respecter, regarder le match tranquillement, dans une bonne ambiance, boire une bière ensemble, faire santé, et peu importe qui gagne, qui perd, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, il n'y a pas d'échauffourée, il n'y a pas d'animosité. Et c'est ça qu'il doit avoir, et certainement en France, Paris, Marseille, Nice, j'en passais des meilleurs, les derniers mois, c'est un drame pour le foot.
Ouais.
T'as pas envie d'aller avec tes gosses au stade, sachant que tu vas peut-être même pas rentrer.
C'est vrai.
Avec la finale de la Ligue des Champions.
Ça, c'était les supporters anglais, attention.
Ouais.
Non, et pour c'était parler, une blague. Et pour parler football aussi, je pense qu'on peut s'attendre à un beau match, justement parce que le Maccabi Haïfa est porté par cette belle dynamique. Je me souviens qu'ils ont posé des difficultés au PSG, qui n'ont que 2-1 au match aller. Et là, on va se retrouver avec un PSG qui a changé de système, qui joue en 4-3-3, et qui semble plus ou moins avoir surmonté cette passe un peu difficile qu'ils ont eue au cours de ces 3-4 dernières semaines. Et en face, une équipe de Haïfa qui
va jouer
sa place en Europa League. Donc, un vrai match à enjeu. Et évidemment, avec les joueurs qu'on connaît, Messi.
Messi, Neymar, ouais, le retour de Neymar aussi. Blaise, oui.
Et le retour de Ramos.
Ah. Et de Kimpembe.
Le retour de Kimpembe, du moment qu'on n'a pas le retour de Kurzawa, tout va bien.
Mais Christophe Galtier nous a promis que le changement de système n'était pas dû aux absences. Donc, si tout le monde est là, il repasse en 3-5-2, si j'ai bien compris.
C'est ça. Il repasse. Il mettra. Bon, Ramos, il est pas mauvais. Non, puis il fait son âge, quoi.
Il a un peu du mal à se retourner.
C'est
quoi.
Ça. Mais
un des grands intérêts de ce nouveau système, c'est maintenant, depuis quelques matchs, l'émergence de Fabian Ruiz, qui a vraiment trouvé sa place avec Vitinha et Verratti au milieu.
Et il a une frappe et un pied gauche exceptionnel. Voilà,
qui a un jeu très élégant, qui rappelle, on en parle avec Blaise, qui rappelle un peu le Thiago Motta des grandes années, c'est-à-dire un joueur calme, balle au pied, technique, qui a beaucoup de sang-froid. Et qui est une vraie plaque tournante de l'équipe et qui permet, par son activité, à des joueurs comme Vitinha et Verratti de se projeter davantage. Et c'est un vrai plus dans cette équipe parisienne.
Oui, je suis tout à fait d'accord même. C'est vrai que ça leur a permis, avec lui en plus, de moins jouer sur un fil, parce qu'ils sont talentueux, Vitinha et Verratti, très talentueux, ils manipulent le ballon super bien, mais de temps en temps, quand vous êtes pris par le surnombre, c'est...
Souvent, Verratti, il a un peu tendance à courir partout, et donc je pense qu'avoir quelqu'un derrière qui fait les efforts à sa place, ça l'aide et ça lui permet de garder sa lucidité, qu'on sait qu'il a du mal à garder, notamment envers l'arbitre.
Ah oui, parfois un petit
donc,
peu de...
C'est bénéf pour tout le monde, en fait, parce que ça permet de ressortir les qualités de Verratti et puis ça permet d'avoir une réelle assise défensive, parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe, cette année un peu moins, mais cette équipe défend à 9,
ouais.
voire à 8.
Quoique,
Neymar
c'est le moins
plus les efforts cette année, mais
et puis ça offre un type qui frappe en dehors de la surface de réparation parce que Verratti il c'est pas son fort. Bah voilà pour le groupe H. Je vous propose de passer au groupe A. Et Vincent va nous éclairer puisque c'est le groupe de Naples, le Napoli leader donc de Serie A, d'ores et déjà qualifié lui aussi pour les huitièmes de finale. Il attendra sa place, à quelle place le Napoli va se qualifier. Liverpool semble également bien parti, mais le club de la Mersey va devoir écarter la menace Ajax demain. Sinon, il se prépare une dernière journée compliquée. Donc, je rappelle les matchs demain, c'est Ajax contre Liverpool et le Napoli face aux Glasgow Rangers qui, eux, ont 0 points. L'enjeu est vraiment Ajax-Liverpool. Les deux équipes sont un petit peu malades, entre guillemets, baisse de régime par rapport à ce qu'elles avaient offert. Mais bon, il y a 6 points d'écart quand même entre les deux pour le moment. Hein.
Il y a surtout Naples, enfin désolé, mais il y a surtout Naples qui a créé une surprise quand j'ai vu leur résultat face à l'Ajax. Waouh! Wow. Ouais. L'Arena, je pense que c'était 2-6, quelque chose comme ça.
6-1.
Personne ne s'y attendait, et surtout que Naples, moi je vois la moitié de l'équipe, je ne les connais pas. Donc, C'est très impressionnant.
C'est assez impressionnant. Bah, ils roulent sur leur groupe avec le dernier finaliste et ils dominent l'Italie. Alors après, quand même, moi, je suis assez prudent, je dois dire, parce que c'est un coup qu'ils nous font souvent. On se souvient, l'année dernière, première saison de Spalletti, il me semble, ils gagnent les 10 premiers matchs du championnat. Tout le monde dit, cette année, c'est la leur. Et quand l'hiver arrive, ça commence à trembler. Et quand le printemps arrive, on se rend compte que c'est terminé. Et en fait, c'est un schéma qui se répète parfois avec Naples. Donc même s'il y a un grand enthousiasme, évidemment, parce que ce qu'ils font est très impressionnant. Ouais. Et au-delà même de leur position dans les classements,
le jeu, on parlait du jeu, oui, t'as raison. Oui,
c'est vraiment impressionnant avec des joueurs qu'on ne connaissait pas.
Ouais, je pense au géorgien qui est exceptionnel.
Le géorgien Kvara, comme on l'appelle, Kvaradona, disent certains. Il y a une émergence de grands talents avec des gens qui commencent à confirmer aussi les attentes qu'on mettait en eux, comme Osimhen, qui a été décisif ce week-end contre la Roma et qui a permis à Naples de gagner 1-0. Donc il y a cette belle dynamique, mais moi je dis quand même prudence.
Prudence. Bon, en tout cas, en Ligue des Champions, c'est un super résultat. 12 points, c'est 12 millions en plus, hein, je crois. Un peu moins de... On parle sous et gros sous. On a dit c'est un peu plus de 900 000 euros, je crois, le point. Un peu moins de 3 millions, la victoire.
C'est quasi 1 million le point, effectivement. Okay. Sans juste... Comme fille de l'UEFA. Il n'y a pas de ticketing, de.
Oui, c'est ça, juste parce qu'on
a. De droit TV, de merchandising, de VIP, etc. Donc c'est pur sur la prestation.
Sur la prestation. Donc on verra demain, enfin cette semaine, ce qu'il en est du résultat de l'Ajax-Liverpool, mais l'Ajax doit absolument l'emporter pour espérer encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça me paraît plus difficile que les Glasgow Rangers leur soufflent la troisième place, puisqu'il y aura un Rangers-Ajax lors de la dernière journée.
Mathématiquement,
c'est possible, puisqu'ils ont 0, les Glasgow Rangers et l'Ajax n'a que 3 points.
Il faut espérer pour le football belge que les Rangers gardent leur 0, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que ça fait partie des concurrents. Le groupe C, le fameux groupe de la mort, puisqu'il y en a toujours un, celui qui était composé, toujours composé du Bayern, de l'Inter, de Barcelone et de la victime expiatoire, Victor Pilsen. Le Bayern a 12 points, l'Inter 7, Barcelone 4 et Pilsen 0. Demain, on a le choc Barcelone-Bayern et on terminera par Bayern-Inter. La pression est sur le Barça. Qui doit absolument l'emporter face au Bayern, mission quand même parfaitement compliquée pour espérer pouvoir encore prétendre à passer ce tour et à être en huitième de finale en février.
C'est déjà cuit, non ?
Je pense aussi.
C'est quand même dingue. On parlait tout à l'heure de la Juve, mais là, le Barça, ça va être la deuxième année d'affilée qu'ils ne sortent pas des poules de Ligue des Champions. C'est quand même dinguissime, quoi.
Ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas... Ils montrent pas grand chose de très enthousiasmant. C'est par séquence. Il y a quelques
petites. Non, mais c'est surtout l'Inter qui a 3 points d'avance et qui joue Pilsen.
Oui, oui, ça c'est vrai que c'est surtout.
Je ne m'attends pas nécessairement à une grosse surprise du Barça. Après.
C'est ça, c'est-à-dire que même si.
Après, il y a des équipes qui vont sortir, que ce soit l'Ajax ou Liverpool, que ce soit l'Inter ou le Barça, avec beaucoup de bonne volonté. Ce sont de belles équipes en Europa League. Donc ça peut. Ça... Ouais. Ce qui déforce la Champions League. Renforce l'Europa League et en forme de cascade un peu plus loin renforcera la Conference League. Donc voir Barcelone-Liverpool en finale de l'Europa League, ça ne me dérangerait pas.
Bien sûr.
C'est vrai.
Façon de parler.
Je pense quand même que c'est pas mort pour le Barça. C'est peut-être un peu risqué de dire ça, mais bon, c'est pas non plus le Bayern le plus impressionnant de ces dernières années. En face, on a quand même un Barça qui a mis 4-0 ce week-end, évidemment pas contre le Bayern, mais qui est sur une dynamique relativement bonne, avec un Lewandowski qui marque beaucoup, qui aura envie de montrer que contre son ancienne équipe, il peut faire des choses alors que son match aller était décevant. Mm-hmm. On a quand même un Dembélé qui est très irrégulier, mais qui sur un éclat de génie peut faire basculer un match, qui a fait d'ailleurs ce week-end trois passes D et un but. Donc évidemment, le Bayern est grandement favori, mais on ne sait jamais.
Mais après, c'est pas que le Barça batte le Bayern, ça ne m'étonnerait pas en soi. C'est que le Barça batte le Bayern, conjugué à ce que l'Inter
ne
perd face
pas,
à Pilsen, et que le Barça gagne la dernière journée.
La dernière journée du coup du Barça sera contre Pilsen.
À Pilsen, et l'Inter.
Et celle de l'Inter contre le Bayern.
Ah, au Bayern. Ouais, non, mathématiquement c'est possible, mais c'est vrai que c'est. Ça va être compliqué, mais enfin, ils se sont mis tout seuls dans cette situation, donc ils vont devoir s'en sortir tout seuls.
Mais Barça-Inter était un magnifique match, d'ailleurs, il y a deux semaines.
Ouais.
C'était là qu'il devait gagner, le Barça.
Tout à fait.
Ouais. Je vous propose qu'on passe au groupe D, un des groupes les plus serrés. Tottenham est en tête avec 7 points, deuxième l'Olympique de Marseille, 6 points, égalité avec le Sporting, et quatrième l'Eintracht de Francfort. C'est mercredi. Tottenham recevra le Sporting et l'Eintracht recevra l'OM. Comment est-ce que tu sens et on rappelle que Marseille terminera à domicile face à Tottenham. Pour l'instant, les Marseillais sont bien placés, mais ils ont deux matchs compliqués. Il n'y a que des matchs compliqués de toute façon dans ce groupe.
C'était inespéré cette deuxième place après les deux premiers matchs. Ils font une double confrontation contre le Sporting. Le Sporting se sort tout seul de son match.
Ouais.
Marseille ne fait rien, surtout à domicile. Et puis, puis ils reviennent comme ça. Mais moi j'ai extrêmement peur parce que cette équipe a connu un début de saison tonitruant. Et là, ça fait 2-3 semaines, depuis le match retour contre le Sporting, où ça ne tourne plus. Quoi. Et ce week-end, ils perdent contre Lens 1-0. C'est un peu un casse. Mais quand tu n'as pas d'attaquant, tu ne peux pas marquer de but. Et Marseille, ils n'ont pas d'attaquant. Et quand tu fais jouer Guendouzi, qui est un 6, que tu le fais jouer 10, il y a un manque de créativité dans cette équipe. Elle a un impact physique magnifique, c'est très bien. Mais à partir du moment où tu arrives devant la surface et que tu n'as que Harit qui a un peu de ballon et puis Sanchez qui avale les kilomètres et donc quand il est devant le but, on a l'impression qu'il voit flou et ça ne marche pas. Quoi. Enfin, je veux dire, je pense que ça a très bien marché les premières semaines parce que les mecs avaient le physique pour, mais je crois qu'ils se rendent compte que là, on leur demande un petit peu trop. Et si tu fais pas changer et deux de tes meilleurs éléments de l'année dernière qui sont Gerson et Payet, où tu les mets sur le banc, où Gerson va sûrement rejoindre Sampaoli à Séville cet hiver, c'est quand même. Moi je trouve ça extrêmement dommage de se priver de ça. Et devant le but, ça se voit.
Devant le but, ça se voit, ouais. Et puis moi je trouve une triste saison pour Dimitri Payet qui est quand même. Techniquement, l'un des meilleurs joueurs du championnat de France, l'un des meilleurs joueurs français.
C'est une arme à distance aussi, sur coup franc, sur frappe,
sur corner, arrêté. Non, mais dans cette équipe, il n'y a pas un joueur comme lui. Et l'année dernière, Marseille va finir deuxième. C'est, je pense, 70% grâce à Payet. Mmh. C'est lui qui fait tout dans l'équipe l'année dernière.
C'est vrai.
Et le mec est capitaine et tu le fais même plus rentrer, quoi. Enfin, moi, je...
Ah oui, je sais, quand c'est comme ça, c'est difficile. Hein. L'OM, voilà, ils vont avoir encore deux matchs pour confirmer que leur position de deuxième n'est pas usurpée. On leur souhaite bonne chance.
Le truc qui est bien, c'est que contre Tottenham, ils ont bien joué le premier match. Ils se prennent un carton rouge, qui les sabarde, mais ils ont bien joué. C'est juste le match contre Francfort qui a été catastrophique. Donc ça, c'est peut-être le truc qui rassure. Ils doivent battre Francfort et puis espérer faire quelque chose contre Tottenham, et ça devrait le faire. Mais il faut aller absolument battre Francfort.
C'est ça, ça va être difficile. Mais c'est faisable. On va finir rapidement sur les autres matchs de Ligue des Champions à retenir. Le Real Madrid n'est pas encore qualifié et va à Leipzig pour assurer justement sa qualification. Et puis gros match, gros retour, celui de Erling Haaland qui, avec Manchester City, sera de retour au BVB, au Borussia Dortmund.
Le vrai BVB.
Le vrai, celui-là. Retour donc dans son club précédent. Les deux équipes sont en tête, de toute façon, de ce groupe.
Ah oui, elles sont bien en tête.
Ouais, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour le Borussia et City pour passer. City est déjà qualifié pour les huitièmes de finale.
On espère juste que Haaland n'envoie pas de défenseur allemand sur une civière.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez vu le but d'Haaland ce week-end. Une passe, une très belle passe de Ederson. Hein. On sait qu'il a un jeu au pied merveilleux. Et alors Haaland qui arrive comme une fusée et qui déboîte un défenseur pour ensuite mettre un but et le défenseur qui glisse sur 5 mètres après ça.
Ouais, il est impressionnant, hein, physiquement, ouais, et cet alliage de technique et de puissance physique, c'est exceptionnel. Il reste quelques minutes, je vous propose qu'on parle des Belges qui ont brillé ce week-end. Ils ont brillé notamment en Angleterre avec trois sublimes frappes. La plus belle, pour moi, c'est celle de Youri Tielemans, qui a mis une mine assez exceptionnelle.
C'est bien. En fait, c'est surtout super rassurant pour les Diables que Tielemans performe. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à toutes les lignes, on a des doutes.
Après, Tielemans, il performe toujours en club, mais chez les Diables, je ne l'ai pas vu jouer un bon match.
Non, c'est sûr. Il a jamais. Ouais.
C'est bien qu'il soit en forme, je te rejoins.
C'est ça, ouais, c'est bien qu'il soit là. Parce que qu'il soit bon ou pas, on va avoir besoin de lui cet été.
Le réflexe, mais oui.
C'est l'été qatari. Hein.
Voilà.
C'est l'été qatari, oui. Les autres joueurs qui ont brillé, Kevin De Bruyne, ça devient un petit peu redondant, hein, on le dit tout le temps. Il est toujours aussi fantastique. Et puis une belle frappe de. C'est Trossard hein, qui a. Qui lui aussi est dans une belle forme.
Hein. Énorme. Je me souviens qu'il a mis un triplé contre. Contre
Liverpool, ouais.
Là, il marque une frappe magnifique contre City, donc contre les deux meilleures équipes anglaises de ces dernières années. C'est quand même pour les Diables, c'est une bonne nouvelle d'avoir un joueur qui monte en puissance comme ça, surtout sur un poste où on a quand même encore des doutes, quoi.
C'est une excellente nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a Martinez et que tu n'es pas garanti que Trossard soit titulaire, mais qu'on puisse jouer à nouveau avec les mêmes joueurs que d'habitude, on va dire.
Ça va être ça. On le sait tous, ça va être ça.
C'est ce qu'on peut craindre. Mais après, je l'avais déjà dit dans une émission précédente, la Coupe du Monde ici en hiver, c'est unique pour tout le monde. Tu n'as pas la préparation et tu n'as pas le temps de te mettre en forme et de créer une cohésion d'équipe. Tu es opérationnel une semaine après ton dernier match de championnat.
C'est fou.
Et tu dois prendre des joueurs qui sont au top de leur forme et qui performent et qui ont la confiance. Et l'aspect psychologique, c'est très important.
Ouais, c'est vrai. On aura le temps de parler de cette Coupe du Monde puisqu'on vous prépare aussi une petite surprise puisqu'on sera souvent à l'antenne pendant cette Coupe du Monde. Il est l'heure de refermer cette émission dont joue la prolongation. Il est 21h tout juste. On a été ravis, en tout cas en ce qui me concerne, de passer cette heure avec vous. Merci Alex. Merci
ça
beaucoup.
Juste à faire,
hein
un petit chat dans la gorge. Merci Sam, ce fut un plaisir aussi.
Merci Vincent pour ta première. On était ravis de t'avoir. J'espère que tu as apprécié l'expérience. Quant à toi Blaise, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à toi Sam.
Et puis on souhaite plein de bonnes choses pour vos clubs respectifs cette semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Et toi on te retrouve
Demain matin,
frais et dispo. Bonne soirée à toutes et à tous.